La Bible dit que ce lieu est un lieu redoutable. Oui, ce lieu est redoutable parce que nous y produisons une véritable révolution. Et cette révolution, elle est spirituelle. Et nous nous réjouissons de cette révolution que le Seigneur a pu produire dans le cœur de chacun d'entre nous. Cette révolution est le fruit de la conversion à Jésus-Christ. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, alors notre vie change. Nous ne sommes plus du tout les mêmes. À Dieu soit la gloire. Et j'en viens à mon sujet ce matin, qui sera un sujet plutôt sensible, un sujet particulier qui touche au domaine du démoniaque, au domaine du combat spirituel. J'ai intitulé mon sujet « L'influence démoniaque, mythe ou réalité ». L'influence démoniaque, mythe ou réalité. Nous allons lire ensemble dans l'épître de Paul à Tite, dans le chapitre 3, le texte qui va nous servir d'introduction, Tite 3, versets 4 à 7. Il est question de cette vie nouvelle que nous avons reçue en Jésus. Et comme le disait votre pasteur il y a quelques instants, nous avons été rachetés d'une vaine manière de vivre. Et on peut souligner cette vie qui était une vie de vanité. Nous adorions des idoles. Nous étions tenus par toutes sortes de pratiques, des pratiques vaines. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous avons été délivrés de toutes ces choses. Tite, chapitre 3, verset 4, il est écrit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. » D'autres traductions nous parlent même du bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Amen. L'influence démoniaque, mythe ou réalité. Un sujet tellement sensible. Il ne se passe pas une semaine sans qu'à nos bureaux, nous recevions des coups de fil, des emails dans lesquels des personnes déclarant connaître Jésus souffrent de problèmes liés étroitement, directement avec le monde de l'occulte, le monde des ténèbres. Et pour nous, en tant qu'évangélistes, en tant que pasteurs, cela nous pose en effet un réel problème, un réel souci qui mérite qu'on puisse y accorder toute notre attention. Il y a quelque temps, dans une église à Paris, à la fin d'une réunion d'évangélisation, une dame s'avance sur le devant et c'était le moment de la prière pour les malades. Je m'approche d'elle tout simplement pour prier pour son besoin. Et à peine je l'ai touchée qu'elle s'est écrasée par terre et a commencé à se tordre. Et je vous passe sur tous les détails. Elle montrait visiblement des signes d'une évidente possession. Nous avons prié pour elle. Cette personne, par la grâce de Dieu, a été délivrée. Mais la grande surprise qui était la mienne, c'est ensuite lorsque j'ai eu un entretien avec elle, parce qu'il fallait avoir un entretien. C'est important qu'on puisse s'entretenir avec ceux qui manifestent des signes d'aliénation, de possession. C'est important qu'on puisse en prendre soin. Et en parlant avec elle, cette dame m'a déclaré être surprise de s'être manifestée de cette manière. Elle était visiblement bouleversée. Et quand je lui ai demandé quelle était sa croyance, d'où elle venait, elle m'a expliqué qu'elle était membre d'une église évangélique située à quelques pâtés de maison de l'église dans laquelle j'avais apporté la parole. Mais sa grande surprise aussi, c'était pour elle de dire que c'était la première fois qu'elle entendait que dans une église, on pouvait prier pour les gens qui sont tourmentés. Parce que dans cette église évangélique qu'elle avait rejoint, jamais on n'avait abordé ce sujet. Jamais on ne s'était occupé de prier pour elle, de savoir si elle avait des problèmes spirituels. Elle avait trouvé la foi chrétienne très intéressante. Elle avait épousé les idées de la foi chrétienne, mais elle n'avait pas fait l'expérience de ce que la Bible appelle ici le baptême de la régénération, le bain dans la régénération, c'est-à-dire le bain dans la parole de Dieu. Il est important que nous soyons régénérés par la parole. Alors, se pose ainsi cette question de ceux qui vivent des phénomènes troublants et des sympathisants aussi, qui n'ont pas fait l'expérience d'une authentique régénération. Voilà une première catégorie de personnes qui fréquentent nos lieux. Je les appelle des sympathisants qui n'ont pas fait l'expérience d'une authentique régénération et qui prennent place peu à peu dans l'assemblée. Ils ne sont pas nés de nouveau et il faut en parler. En s'éloignant du strict enseignement de la parole de Dieu et en ne l'appliquant pas dans la vie de tous les jours, un nouveau type de chrétien risque de faire son apparition dans l'Église aujourd'hui. On les appelle comment ? On les appelle sympathisants. On les appelle sympathisants. On les appelle amis, adeptes ou visiteurs. Et ces gens s'installent dans l'Église évangélique comme dans une sorte de petite religion, une petite religion évangélique. Ils trouvent les lieux agréables. Ils trouvent les gens extrêmement sympathiques. Ils s'attachent. Se fidélise comme il pourrait le faire pour une association ou dans un club de sport, mais il n'expérimente pas ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Ils ne connaissent pas le bain de la régénération, car la Bible dit bien que c'est par ce bain que nous sommes sauvés. Il faut faire l'expérience de ce bain. Tous ceux qui épousent les idées de l'Évangile n'acceptent pas forcément Jésus comme Seigneur. Tous ceux qui épousent les idées de l'Évangile ne reçoivent pas forcément le Seigneur de l'Évangile dans leur vie. Et là, ici, il y a un énorme défi. En effet, la tragédie des fausses conversions, c'est mon premier point. La tragédie des fausses conversions. C'est Charles Finet qui a eu un jour le courage, l'audace d'aborder ce sujet. Lui qui a connu tellement de réveils dans son ministère, il a publié des écrits sous ce titre « Les fausses et les vraies conversions ». Il y a malheureusement des personnes qui ne sont pas converties et nous avons parfois le sentiment qu'ils le sont, mais il s'agit là de fausses conversions car, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ces personnes ne sont pas nées de nouveau. Elles n'ont pas fait l'expérience du bain de la régénération au moyen de la parole vivante et permanente de Dieu. Elles adhèrent, elles viennent, elles se fidélisent, mais elles ne connaissent pas véritablement le Seigneur. Il n'est pas le roi de leur vie. Il y a quelques années, dans l'est de la France, j'avais l'occasion de prier à la fin d'un service pour les malades qui s'étaient approchés sur le devant. Et en m'approchant d'une dame, à peine étais-je en train de prier pour elle que je vois son corps se tordre sur le côté. Alors, voyant l'âge de la dame et sa corpulence, j'étais convaincu qu'elle n'était pas membre de l'Opéra de Pékin. Je me suis dit, cette dame n'est pas suffisamment souple pour me faire une démonstration de danse. À l'issue de ce service, il y a donc un problème. J'ai immédiatement arrêté de prier, j'ai posé une question. Je dis, madame, connaissez-vous cette assemblée ? Elle dit, en effet. Puis je voyais sur son visage la terreur parce qu'elle ne contrôlait plus son corps. Elle me dit, écoutez, je suis candidate au baptême, je dois me faire baptiser la semaine prochaine. Je dis, écoutez, je vais voir le serviteur de cette église, nous allons venir vous faire une visite. J'en parle au serviteur, surprise, il est étonné, mais il veut absolument voir cette dame. Nous allons la voir chez elle, elle nous invite à entrer dans la cuisine, elle nous sert le café, et puis je demande à la personne en question d'expliquer ce qu'elle venait de vivre. Je dis, pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé à ce moment précis où j'ai eu l'occasion de prier pour vous ? Et elle le dit, elle explique en effet qu'elle a perdu contrôle de son corps, et elle ne sait pas pourquoi, mais qu'elle était terrorisée, qu'elle souffre de maladie, elle le précise, depuis bien des années, qu'elle est aussi tourmentée, qu'elle a parfois des visions, qu'elle sent parfois des présences autour d'elle, mais qu'elle est très heureuse de se préparer pour le baptême. En effet, on s'en réjouit, mais moi ça m'inquiète. J'avais quelques inquiétudes à ce sujet-là. Et le pasteur, entendant cette déclaration, était le premier surpris d'entendre ces choses. Alors, il se tourne vers la personne en question et continue à poser des questions, quand tout à coup, je reçois une parole du Seigneur Et je pose la question directement à ces dames. Je lui dis, madame, allez-vous voir les guérisseurs? Et elle dit, bah, bien sûr. Surprise numéro 2. Là, le pasteur s'est tourné vers elle et il lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne me l'avez jamais dit? Et la dame a répondu, vous ne me l'avez jamais demandé. Et nous avions ici une dame prête pour le baptême. Elle avait suivi tout le processus de formation, mais elle avait un problème spirituel extrêmement profond qui n'avait pas été identifié ni traité. Et on était sur le point de baptiser une personne habitée par des puissances de ténèbres. Il ne faut pas oublier qu'une baisse de la vie de l'esprit et de l'exercice des dons spirituels favorise ce genre de situation. Croyez-le bien, la religiosité n'est certainement pas une immunité contre les démons. La seule immunité valable est le rachat par le sang précieux de Jésus, le Rédempteur. Il nous a rachetés, il nous a délivrés par son sang précieux. Alors un défi pour nous, et je m'inclus bien sûr à l'intérieur, un défi pour nous prédicateurs de prêcher la parole et d'amener les âmes à une authentique conversion. Donc toujours, au sujet de ces fausses conversions, il y a aussi tous ces gens qui évoluent dans des milieux dits chrétiens, voire charismatiques, et qui ne sont pas passés par une vraie repentance. L'Église évangélique n'est pas non plus une bulle à l'intérieur de laquelle, une bulle stérile, dans laquelle on va trouver refuge et au sein de laquelle on pense qu'on sera préservé de toute attaque diabolique ou démoniaque et qu'en allant à l'Église, on n'aura plus ces problèmes spirituels. Il faut se souvenir que dans Luc 13, versets 10 à 17, Jésus a chassé un esprit d'infirmité d'une fille d'Abraham. Il enseignait dans la synagogue. Malheureusement, certains s'appuient sur cette expression « fille d'Abraham » pour justifier leur enseignement sur le chrétien possédé. Si une fille d'Abraham peut être possédée, alors un chrétien authentique peut lui aussi être possédé. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Car en appelant cette femme « fille d'Abraham », Jésus ne cherchait pas à affirmer que c'était une véritable croyante, mais il soulignait par là seulement le fait qu'elle était juive, descendante d'Abraham, et que souffrir de tels problèmes spirituels n'était pas normal, il y avait une anomalie. Un véritable paradoxe. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Israël, il y a énormément d'athées. Trop souvent, on pense qu'il suffit d'aller en Israël pour trouver la foi. Mais il faut savoir que l'athéisme occupe une part importante au sein du peuple d'Israël et qu'il est important d'évangéliser en Israël, de proclamer la bonne nouvelle sur la terre d'Israël. Et quand Jésus vint en Israël, il se heurta à quoi? À des fils et à des filles d'Abraham remplis de foi, manifestant une autorité extraordinaire contre les démons. Non, il se heurta à l'incrédulité. Dans la synagogue de Capernaum, dans Marc 1, versets 21 à 27, la Bible dit, le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue, se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant de grands cris, tous furent saisis de stupeur. Oui, en Israël, il y avait des démons et Jésus est allé là-bas pour faire la guerre au diable. Acte 10, 38, l'apôtre Pierre rappelle cette triste réalité. Des places que l'ennemi tenait en Israël. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force? Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et dans plusieurs scènes des évangiles, on voit l'étonnement des chefs religieux lorsque Jésus prie pour des fils et des filles d'Abraham et qu'il leur chasse des puissances. Ils avaient le titre, mais ils n'avaient pas cette foi qui aurait pu les préserver de cette influence maléfique, diabolique et satanique. Je me souviens de cette dame qui fréquentait l'église évangélique et dans une réunion de prière, tout à coup, elle est tombée à terre. Nous avons prié pour elle, elle était baptisée d'eau, membre de l'assemblée. Et après avoir prié pour elle, avoir vu sa délivrance, eh bien, elle confessait que cette femme qui était d'origine algérienne, eh bien, chaque soir, lorsqu'elle retournait dans sa chambre, elle croisait les couteaux sous ses oreillers pour conjurer les mauvais sorts. Et on se demande alors pourquoi certaines personnes vont manifester des signes de possession, mais c'est parce qu'ils trafiquent encore avec le diable et qu'ils ont certains problèmes importants d'ordre spirituel. On entre dans le royaume de Dieu uniquement par la nouvelle naissance. Et si je devais aborder aussi le problème du parler en langue, enfin le parler en langue n'est pas un problème, mais la copie du parler en langue en est un, des individus, eh bien, prononcent simplement quelques onomatopées, beau bas, beau but, et puis on leur déclare qu'ils sont baptisés, remplis du Saint-Esprit, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont bons pour le baptême. Mais derrière tout cela, qu'y a-t-il vraiment ? Comme cette dame qui vient dans une réunion et qui s'avance sur le devant, et au moment où nous prions avec le pasteur pour elle, eh bien, elle va vivre une véritable délivrance. Mais comment en est-elle arrivée à vivre cette délivrance ? Eh bien, revenons au début. Elle est sur le devant. Je m'approche d'elle, elle commence à parler en langue. Et lorsque j'entends son parler en langue, tout à coup, l'Esprit Saint m'alerte. C'est d'origine démoniaque. Alors, je m'approche de cette dame et je lui pose simplement une question. Madame, où avez-vous fait l'expérience de se parler en langue? Qui vous l'a donné? Quand? Comment? Et elle me le dit, je suis allé dans des réunions charismatiques et j'ai été baptisé de l'Esprit Marial. Ah, je lui dis alors, Esprit Marial, au nom de Jésus, sors de cette dame. Et là, mes amis, ça a été la projection de cette dame dans les chaises et puis une manifestation avec une telle violence qu'il a fallu plusieurs hommes pour maîtriser cette furie qui était remplie de démons, qui se déclarait chrétienne, qui déclarait parler en langue, mais qui ignorait totalement la seigneurie de Jésus. Alors il y a ceux qui ne sont pas nés de nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui fréquentent des milieux évangéliques, charismatiques, chrétiens, dits chrétiens, mais qui n'ont pas fait l'expérience de la vraie repentance. Et puis il y a aussi tous ceux qui psychosent pour pas grand-chose. Il arrive en effet que des chrétiens en proie à des épreuves, à des difficultés dans la vie, eh bien, en viennent à affirmer qu'ils sont liés, qu'ils sont persécutés par un démon et qu'ils ont même des liens démoniaques dans leur vie. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus loin. J'ai souvent remarqué que chez les chrétiens qui affirment avoir tel ou tel lien, le problème se trouve souvent ailleurs. Souvent, les chrétiens viennent me voir, ils me racontent qu'ils ont vécu autrefois dans l'occultisme. Alors aujourd'hui, ils ont des problèmes financiers, des problèmes de santé, comme si on n'en avait pas. Pour vous, tout va bien. Même les serviteurs de Dieu ne sont jamais malades. Et ils n'ont pas de problèmes financiers non plus. Les églises non plus, d'ailleurs. Et tout de suite, problème financier, problème de santé. Alors, comme j'étais dans l'occultisme autrefois, je dois certainement avoir un résidu, un reste démoniaque. Et j'ai besoin alors qu'on me libère. Mais là, le cœur n'est pas lié par un démon, il est lié par le doute, tout simplement, par l'incrédulité. Et là, le remède n'est pas la délivrance, mais la foi, l'établissement dans la foi. Et puis, il arrive que les enfants de Dieu ont le sentiment que des gens trafiquent sur eux. Alors, ils en viennent à penser qu'ils sont victimes de sortilèges, mais je leur rappelle leur position en Christ et je les invite à confesser Nombre 23, verset 23, que l'enchantement et la divination n'ont pas de pouvoir sur Israël. Et 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde et que nous avons une pleine et entière autorité contre ces choses. » S'il est vrai que l'ennemi peut concentrer de temps à autre son activité contre des saints, contre des croyants, il ne faut pas non plus lui attribuer cette hyperpuissance qui appartient seulement à Dieu. Amen. Et puis, il y a ces chrétiens qui déclarent faire des choses qui sont plus fortes qu'eux. C'est plus fort que moi. La pression qu'ils subissent est tellement forte qu'ils pensent avoir un démon. Mais en réalité, ils ne donnent simplement cours qu'à la convoitise de leur chair, aux convoitises de leur chair, parce qu'ils n'ont pas une vie spirituelle suffisamment remplie pour résister à ces passions qui agissent dans la chair, comme la Bible l'enseigne. Alors, quand vous avez des problèmes avec la maîtrise de soi, il ne faut pas chasser de démons, ça s'appelle le fruit de l'esprit. Si vous avez un problème avec la colère, vous n'avez pas un démon de colère non plus. La vie de l'esprit est le meilleur remède au problème avec la colère, avec la jalousie, avec la haine, avec la rancune. Ça s'appelle le pardon, tout simplement, dont la Bible nous parle. Alors il faut revenir à des bases qui sont extrêmement bibliques pour régler des problèmes élémentaires de la foi chrétienne. Et puis il y a ces chrétiens qui croient qu'ils ont des démons parce qu'ils ont été conditionnés pour le croire. J'étais dans une église il y a quelque temps et au moment de la prière pour les malades, il y avait, je pense, 80% de chrétiens qui étaient devant l'estrade et tous se mettaient à tousser quand je priais pour eux. J'ai pensé qu'il y avait une épidémie dans l'église. Et puis en les questionnant, tout à coup j'ai appris qu'ils se prêtaient tous un livre dans lequel il était enseigné que pour que les démons sortent chez les chrétiens, il faut qu'ils toussent. Alors je leur ai dit, prenez une bonne cuillère de sirop et vous verrez que ça ira mieux ensuite. Mais c'est dingue comment certaines personnes sont capables, après la lecture d'un ouvrage, de bâtir des théologies et des doctrines qui n'ont aucun fondement scripturaire. Et puis il y a aussi, il faut le dire, alors là, si j'ai plaisanté, si j'ai usé un peu d'humour sur le cas précédent, là, le suivant est plus grave. Il s'agit cette fois-ci de ceux qui ont atteint un point de non-retour. Le point de non-retour. Ces chrétiens qui sont borderline, ces chrétiens qui flirtent en permanence avec la ligne interdite, qui surfent dans des zones interdites, des zones que Dieu condamne, ces chrétiens qui malheureusement rétrogradent, s'éloignent de Dieu et l'abandonnent. Et là, je dois le dire, c'est dangereux que de rejeter Dieu. C'est dangereux que de s'éloigner de Dieu à un tel point, parce que c'est risqué de se replacer sous la puissance du prince des ténèbres. Par son libre arbitre, l'homme peut rejeter Dieu et rompre sa communion avec l'Esprit Saint. Je dois vous dire que vous êtes bénis de croire en Dieu, mais vous n'êtes pas condamné à croire en lui. C'est un choix la foi, c'est un choix la vie avec Dieu. Et de la même manière que vous avez embrassé la foi, vous pouvez aussi renier le Christ. Mais est-ce que renier le Christ signifie obligatoirement ou automatiquement se replacer sous l'emprise diabolique à tel point que vous serez automatiquement possédé? Non, loin de là. On se souvient du reniement de Pierre. La Bible dit qu'il a été criblé par le diable. Mais quelqu'un qui est criblé par le diable, ce n'est pas quelqu'un qui est possédé par lui. Il a été criblé par le diable. La Bible dit dans Proverbes chapitre 6, versets 27 à 28, « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des chardons ardents sans que ses pieds soient brûlés ?» Oui, quitter les voies de Dieu, c'est grave. Quitter les voies de Dieu, c'est se replacer sous un joug étranger, selon les pratiques de ce monde, sous l'influence du prince de ce monde. Cependant, celui qui quitte le Seigneur, le rétrograde, le fils prodigue, nous savons tous qu'il peut revenir aussi. Et qu'il peut revenir dans la repentance. Cette parabole de Jésus nous montre combien celui qui est tombé au plus bas peut revenir à Dieu et que Dieu, dans sa grâce, l'accueillera pour le pardonner, pour le purifier, pour le couvrir et le restaurer. Amen. Mais quelqu'un soulèvera, oui, mais il y a certains qui ne sont jamais revenus. C'est vrai, et vous avez raison. Il y a des cas dans la parole de Dieu, on se souvient de Saül. On se souvient de Judas. Saül, dont il est dit dans 1 Samuel 18:10, « Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. » Le mauvais esprit venant de Dieu, on se souviendra quand même ici que si le mauvais esprit est venu chez Saül, c'est parce que Dieu l'a permis. Parce que le diable ne fait que ce que Dieu lui autorise de faire. Il ne peut agir que dans les limites fixées par Dieu. Le livre de Job nous suffit à le comprendre. Et puis, dans Luc 22:3, au sujet de Judas, il est dit « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. » Pourquoi Dieu l'a permis? Eh bien, ça, vous lui demanderez. Parce que ça appartient à Dieu. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Il y a des choses qui ne dépendent que de la souveraineté de Dieu. Et lorsque Dieu juge que telle ou telle personne a atteint son point de non-retour et que dans sa sagesse et dans sa prescience, il sait que telle ou telle personne ne reviendra jamais et ne passera plus par la repentance, alors Dieu rejette cette personne et il la condamne. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Judas et dans le cas de Saül. Alors dans ce cas, l'ennemi a pris place chez Saül, il a pris place chez Judas. Ne prenez pas ce passage pour justifier qu'un chrétien peut être possédé. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans Demon Possession de John Nevius, qui était missionnaire pendant 40 ans en Chine, il raconte ce témoignage d'un homme nommé Chang Lo. Après avoir été totalement délivré, Chang Lo, cet homme délivré de l'emprise des démons, cet homme s'est converti à Christ. Il a décidé de marcher avec Dieu. Mais plus tard, il rétrograda. Alors, rétrograder, c'est descendre. Lorsque j'abandonne, je rejette. Et ensuite, Dieu abandonne celui qu'il rejette. C'est le choix. Et c'est le jugement de Dieu qui tombe. Comme dans le cas des deux personnes citées précédemment. Mais l'histoire de Chang Lo nous rappelle, les démons reprirent possession dans sa vie et le tourmentèrent jusqu'à sa mort. C'est ce que déclare le missionnaire. Je reçois il y a quelque temps un courrier d'une personne qui a été baptisée. Elle dit « Cher frère Franck, je me suis converti à l'âge de 12 ans, je me suis fait baptiser à l'âge de 17 ans, ensuite je suis tombée amoureuse d'un garçon que j'ai aimé plus que Dieu. Et puis notre relation a cassé, mais j'ai très mal accepté cette rupture, ce qui m'a valu d'être internée. Pendant 10 ans, j'ai nourri une profonde haine. » Une personne qui était chrétienne, une personne qui était baptisée. J'ai nourri une profonde haine. C'était l'enfer. J'en voulais à tout le monde, en particulier à ceux qui m'ont rejeté, humilié à tel point que je voulais me venger. Je les maudissais. Pire, je voulais pratiquer la magie noire. Mais le Saint-Esprit m'a conduit à pénétrer dans une boutique qui vendait la Bible. Je suis tombé sur un de vos livres qui traitait du sujet du pardon. J'étais KO. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. J'ai alors compris que la haine ne servait à rien. Et quelques mois plus tard, j'ai fait la paix avec Dieu. Depuis, je suis très heureux. Je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé. Et cela dure depuis une année. Je remercie Jésus pour la croix. Que Dieu vous bénisse, etc. Une personne qui était baptisée, qui en était arrivée au point d'avoir recours à la magie noire, tellement sa vie avait sombré sur le plan spirituel. Et puis, il y a toutes ces personnes, une autre catégorie, toutes ces personnes que l'on délivre. Elles sont délivrées dans une certaine mesure, mais qu'on n'établit pas dans le Christ. Je trouve particulièrement irresponsable de délivrer une personne et de la laisser ensuite se débrouiller toute seule face aux différentes oppressions qu'elle va subir, parce que c'est criminel, entre guillemets, puisque Jésus déclare dans Matthieu 12, versets 43 à 45, il dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. » Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va, il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. » Il en sera de même pour cette génération méchante. Une personne qui a été délivrée, la maison est nettoyée, elle est ornée, mais personne n'y habite. Il faut que Jésus prenne la place. Il faut établir les âmes qui ont été délivrées de puissance dans le Christ, dans la foi. Deuxième point, ces créatures que Dieu a marquées de son sceau. J'aimerais parler maintenant du chrétien. Ces créatures que Dieu a marquées de son sceau. Un chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas subir des assauts de l'ennemi. L'oppression. La possession est intérieure. L'oppression est extérieure. Qu'est-ce qu'un chrétien ? La définition est importante. Parce que est-ce qu'être chrétien, c'est aimer venir dans une église pour écouter des chants ? Est-ce qu'un chrétien, c'est posséder une Bible, l'avoir dans sa bibliothèque ? Est-ce qu'être chrétien, c'est chanter dans une chorale gospel ? Il y a quelque temps, quelqu'un vient me voir, il chante dans une chorale gospel, et il me dit, eh bien, plusieurs personnes de la chorale ont dit qu'ils veulent bien continuer à chanter du gospel, mais ils aimeraient bien qu'on ne parle plus de Jésus dans les chants. Je lui dis, écoute, ça, c'est plus du gospel. Qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est une personne qui a fait la paix avec Dieu et qui est devenue la demeure du Saint-Esprit. Et dois-je le préciser, c'est une personne qui a reçu l'autorité pour chasser les démons. Remettons les choses à l'endroit. Un chrétien, conformément au modèle apostolique, aux enseignements de l'Église primitive, c'est quelqu'un qui était libéré des idoles, libéré des démons, délivré de sa vaine manière de vivre, qui a reçu le Saint-Esprit, qui est rempli et qui a reçu cette merveilleuse autorité pour délivrer ceux qui sont esclaves du diable. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas attaqué. Il sera oppressé, l'ennemi va susciter des persécutions contre lui, mais il a l'autorité dans le nom de Jésus. Voilà le chrétien établi dans le Christ. Dans son ouvrage intitulé « Biblical Demonology », Merrill Unger écrit « Pour ce qui est de la possession, seuls les non-croyants sont exposés. Par contre, pour ce qui est de l'influence démoniaque, croyants et non-croyants sont concernés. Dans le cas de la possession, la personnalité est envahie, le corps est habité, il s'agit d'une domination. Pour ce qui est de l'influence, l'attaque vient de l'extérieur, au moyen de pression, de suggestion et tentation. La vraie nature du salut du croyant, en tant que personne régénérée, scellée et habitée et remplie du Saint-Esprit, le positionne en Christ éternellement et irrémédiablement. Suffit à dire qu'il ne peut pas devenir l'habitation de démons. » D'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 29, « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens ?» sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Je rappellerai ce matin que Jésus est l'homme plus fort. Il est l'homme plus fort. Il est plus fort que l'homme fort, et l'homme fort n'a pas de pouvoir sur Jésus. J'aimerais rappeler aussi que le sceau de Dieu est inviolable. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13, regardez dans votre Bible, « En lui, vous aussi, vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et l'apôtre Paul écrit encore, « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Toujours aux Éphésiens, chapitre 3, verset 17, il dit, « Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la conversion à Christ, Satan a perdu son droit légal de s'introduire dans l'âme, l'esprit et le corps d'un croyant. Je sais que vous avez certainement parcouru des livres sur la théorie tripartite de l'être humain. L'être humain qui serait un corps, une âme et un esprit. Et certains enseignent que le Seigneur est dans l'esprit, il n'est pas dans l'âme et encore moins dans le corps. Mais moi je crois que nous sommes un entrelacement de corps, d'âme et d'esprit, et que nous sommes tout entiers le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, nous sommes invités à servir et à glorifier le Seigneur avec notre cœur, avec notre âme, notre esprit et notre corps qui appartiennent à Dieu. Vous êtes au Seigneur. C'est pourquoi il vous ressuscitera entièrement. Amen. Parce que vous êtes la propriété privée de Dieu. Alors vivez dignement comme des enfants de Dieu. Ne péchez pas. Et ne livrez pas les membres de votre corps à la corruption, au service de la corruption, comme l'enseigne la parole de Dieu. Alors je terminerai par ce troisième point. Un défi nous est lancé, le défi de la vraie conversion. Le défi de la vraie conversion. Alors pourquoi certaines personnes dites chrétiennes ou dites évangéliques, montrent soudainement des signes évidents de possession alors qu'elles fréquentent des réunions évangéliques et qu'elles les fréquentent depuis des mois, voire pour certaines, des années. Alors il y a plusieurs réponses à cela. La réponse n'est pas simple, mais il y a plusieurs réponses. La personne retourne à ses anciens péchés d'abomination tout en continuant à fréquenter l'Église. Ça vous surprend peut-être, mais moi ça ne me surprend plus. Parce que nous vivons dans une époque de grande confusion et malheureusement, à cause de l'arrière-plan culturel de certaines personnes, eh bien, il y a encore des attaches, il y a encore des peurs, des craintes ancestrales et certaines personnes, eh bien, ont toujours un contact avec le monde de l'occulte. Et il est important de couper tous les liens, de trancher radicalement avec toutes ces choses. On se souvient dans les Actes des Apôtres que tous ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, lorsqu'ils se sont convertis à Dieu, ils ont apporté toutes ces choses et les ont détruites, ils les ont passées par le feu. Et puis, dans certains cas, donc soit la personne retourne à ses péchés d'abomination, soit la personne commet des péchés abominables, des choses que Dieu réprouve, ou alors, les démons n'ont pas été chassés de cette personne. Ça, c'est un autre cas. Les démons n'ont pas été chassés de cette personne. Il y a des raisons liées à la démarche du pécheur. Nous noterons que lorsque Jésus adressa cet ordre missionnaire à ses disciples, dans Marc 16, ils chasseront des démons. Donc il a évoqué cette nécessité. Il y avait ce mandat. Vous chasserez des démons, vous libérerez les gens qui sont possédés. Et ensuite, il parle même du baptême dans le Saint-Esprit, puisqu'il évoque le parler en d'autres langues. Et c'est certainement intentionnellement que Jésus a placé ces deux signes dans cet ordre, car pour Jésus, avant de conduire des personnes à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il est important qu'elles aient été délivrées d'autres esprits, les mauvais esprits. On comprend pourquoi Jésus évoque d'abord la victoire sur les démons et ensuite l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Premier cas de figure, vous avez une personne qui adhère, elle n'est pas délivrée de l'emprise des démons sur sa vie, elle adhère au message évangélique, mais le fait qu'elle adhère ne signifie pas qu'il y ait conversion. La religion n'a aucun pouvoir contre les démons, parce que la radicalité de la conversion implique une profonde repentance, et la repentance, ce ne sont pas simplement des larmoiements ou des pleurs, mais la repentance, pour qu'elle soit vraie et que Dieu l'approuve, il faut qu'elle soit accompagnée de fruits dignes. C'est pourquoi celui qui a des idoles chez lui va les briser. C'est pourquoi celui ou celle qui fréquentait le guérisseur du quartier ou qui allait voir les magiciens ou qui lisait les horoscopes ou qui allait voir l'astrologue n'y va plus parce qu'il a tout trouvé dans le Seigneur Jésus. C'est pourquoi celui qui a encore des livres de magie chez lui, eh bien, ne les garde pas par peur d'attirer la colère des démons contre lui, mais il les détruit symboliquement, il les passe par le feu parce qu'aujourd'hui son livre c'est la Bible, la parole de Dieu. Et il n'a pas besoin de la puissance de la magie. On est d'accord jusque-là, je l'espère, vous êtes d'accord. C'est la conversion, c'est la repentance, ce sont les fruits. Il ne faut plus que le diable ait quelque chose en nous. Et Jésus disait d'ailleurs au chef religieux, le diable, il n'a rien en moi. Alors la question se pose, a-t-il encore quelque chose chez toi? S'il a encore quelque chose, il faut couper ce lien. Pour qu'il n'y ait plus d'influence, qu'il n'y ait plus d'oppression, qu'il n'y ait plus de tourment qui puisse entraîner des situations dramatique, la pratique des fruits dignes de la repentance. Lever la main dans une réunion d'évangélisation, voire même répéter une prière de repentance, n'est pas la garantie d'une nouvelle naissance, jamais. La conversion, la régénération, comme la sanctification, ne sont jamais instantanées. C'est tout un processus d'abandon de sa vie, la décision qui fait suite à la décision d'abandonner sa vie radicalement au Seigneur. Et si je m'engage radicalement pour le Seigneur, Dieu s'engage radicalement aussi envers moi. Deuxième cas de figure, la personne a expérimenté un début de délivrance. Elle veut découvrir Jésus, mais elle ne bénéficie d'aucun suivi spirituel. Est-ce la faute à cette personne? Non, c'est la faute à l'Église de Jésus. L'Église doit assumer ses responsabilités, l'Église du Seigneur. Car malheureusement, certaines personnes, il faut le dire, avant d'être totalement délivrées, ont besoin de plusieurs moments de prière consacrés à la délivrance. Et si ces églises ne s'occupent pas de ces gens, si elles ne les suivent pas, ces personnes ne seront jamais délivrées ou elles s'installeront dans l'église avec un état de tourment perpétuel. L'absence de cure d'âme prive la personne d'éclairage pertinent concernant la pratique de péché d'abomination, de pactes conclus avec l'ennemi, de pratiques parfois paramédicales condamnées par la parole de Dieu. J'en passe, j'ai tout un listing qui s'appelle investigation pastorale, qui me permet, lorsque je traite certaines personnes, eh bien de passer au crible tous ces points-là dans leur vie, afin de voir s'il y a toujours dans leur vie certaines choses que Dieu réprouve et que Dieu condamne comme étant de véritables abominations. Et il faut passer du temps pour ces choses-là. C'est un ministère, c'est une charge, une responsabilité dans l'Église que de répondre au mandat de Marc 16, ils chasseront les démons. Troisième cas de figure, eh bien, la personne a été délivrée, mais elle ne se convertit pas pour autant. Elle retourne dans sa vie de tous les jours, voire même, elle s'installe, après avoir été délivrée, elle s'installe dans l'Église, mais ne se convertit toujours pas. J'ai eu le cas d'un homme qui se manifestait régulièrement dans les réunions pendant plusieurs mois, tellement violent qu'il cassait toutes les chaises de l'assemblée. Il poursuivait les croyants dans la salle. Et lorsqu'on prenait autorité sur lui, eh bien, il s'écrasait à terre. Au bout d'une demi-heure, il était finalement délivré. Mais ces séances ont duré pendant des mois. Et il a fallu prier, jeûner pour discerner. Quand Dieu nous a tout à coup éclairés sur un péché d'abomination qu'il pratiquait et que Dieu réprouvait au plus haut point. Quand je lui ai dit « Tu commets ce péché », il m'a dit « Qui vous l'a dit ?» Il venait de reconnaître tout à coup ce péché d'abomination et je lui ai fait comprendre que l'Église est un endroit dans lequel les gens viennent pour changer et vivre une vie de sainteté et que s'il ne veut pas changer, alors il n'a pas la place dans cette Église parce qu'à force de se manifester de cette manière, il met en doute notre autorité quant au ministère de délivrance. Parce que ce sont des séances à répétition avec la même personne. Les chrétiens voient cette personne se manifester encore et encore. On ne voit jamais cette personne être totalement libre. En effet, elle ne le peut pas, puisqu'elle garde des péchés d'abomination dans sa vie. Nous, nous chassons les démons, mais la porte est ouverte pour qu'ils reviennent, puisque Jésus ne prend pas la place après que nous avons chassé les esprits, puisque cette personne, plutôt que d'inviter Jésus comme Seigneur et Roi, eh bien, elle continue à pratiquer ses péchés. Et en pratiquant ses péchés, elle démontre par là que Jésus n'est pas le roi de sa vie. C'est tout un travail. Et puis, il y a des raisons, je terminerai par là, des raisons liées à l'exercice même du ministère. Nous avons, nous, en tant que pasteurs, une grande responsabilité. La pauvreté du message qui ne confronte pas le pécheur sur le terrain de ses péchés. Si nous ne veillons pas à la qualité de notre message, nous sommes des libéraux. Des évangéliques libéraux. Nous risquons de devenir une église évangélique libérale. Alors je sais que ça n'est pas très populaire que de dénoncer le péché, mais c'est conforme à la parole de Dieu. Le premier mot de la prédication de Jésus était « Repentez-vous ». Et il nous faut prêcher la repentance pour que les âmes vivent une véritable conversion, une authentique conversion. Donc le danger, c'est un message qui ne confronte pas le pécheur sur le terrain de ses péchés. C'est un message qui ne parle pas de la nécessité de se repentir. Et s'il parle de la repentance, il arrive qu'il effleure seulement le sujet. Et on omet d'inviter les auditeurs à produire des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire de couper radicalement avec toutes les pratiques que Dieu réprouve dans sa parole. Et puis une autre raison, c'est une absence totale de confrontation avec les ténèbres. Malheureusement, certains ministres de Dieu se déclarent chrétiens, se déclarent envoyés par Dieu, mais n'ont jamais voulu chasser de démons dans leur ministère. Et ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ont peur ou ils ont peur d'un retour peut-être de manivelle de l'ennemi dans leur ministère. Mais il faut absolument répondre, c'est un ordre. Ils chasseront les démons. Certains ont peur des démons. Certains pensent aussi que l'exercice du ministère de délivrance appartient au passé. Il y a malheureusement une partie de l'Église chrétienne évangéliste qui pense évangélique qui pense que le ministère de délivrance eh bien, appartient seulement au passé, à cet âge du début de l'Église primitive, mais que ces choses sont terminées, qu'aujourd'hui il n'y aurait plus de démons qui possèdent les gens et que les gens ne souffrent en fait que de troubles d'ordre psychiatrique. Alors s'il est vrai qu'il y a des troubles psychiatriques, il faut faire la différence entre la maladie psychiatrique et la possession démoniaque, et les deux ne se traitent pas de la même manière. Certains pensent aussi que les gens fabulent trop facilement, et qu'ils voient des démons partout. C'est sûr que certains en voient partout, mais d'autres en voient nulle part. Certains pensent aussi que la délivrance est l'affaire seulement de spécialistes. Mais non, Marc XVI, c'est à ceux qui croient. Certains n'ont eu aucune formation sur le sujet, il est important de former sur ce sujet. D'autres, malheureusement, sont devenus incrédules et ne pensent plus avoir cette autorité pour chasser des démons. Certains ne recherchent pas le don de discernement, alors que Paul parle des dons de l'esprit, et dedans il y a le don de discernement des esprits. Les démons ne les craignent pas parce qu'ils n'ont pas conscience de leur propre autorité en Christ. D'autres ministres, malheureusement, ont fait de mauvaises expériences et ayant eu affaire avec des échecs, eh bien, ils ne veulent pas vivre de nouveaux échecs. Mais il est important que nous puissions traiter eh bien, de ce sujet, en nous occupant vraiment des âmes qui manifestent des signes, que nous puissions discuter avec eux pour voir si véritablement il s'agit de peur, d'angoisse, de terreur, et comment leur venir en aide, parce que s'il y a des raisons liées au ministère, eh bien, il y a aussi des raisons liées aux obsessions. Les obsessions, le pouvoir des craintes, la crainte. Jésus rassurait toujours. Prends courage, ne crains point. Et trop de chrétiens doutent de leur identité en Christ et croient à la possibilité de la possession. Et ils vivent dans la crainte, sont attaqués, comme cette dame avec laquelle je parlais, qui ne dormait plus la nuit depuis ce jour où une sorcière avait élu domicile à l'étage d'au-dessus. Je lui dis, mais ma sœur, c'est la sorcière qui ne devrait plus dormir, puisque c'est vous qui avez l'autorité en Jésus. Hein, c'est important, le pouvoir des craintes. Et à cause d'elles, eh bien, des individus peuvent avoir des comportements dans des moments de prière à la limite de l'hystérie, avec des tremblements, des convulsions, des spasmes, des vomissements. Et ne crions pas tout de suite « possession, possession », non. Il faut prendre du temps. Il faut suivre la personne, discuter avec elle. La cure d'âme, l'entretien va permettre de mettre en évidence peut-être des craintes, peut-être même la psychose de la possession supposée. Parce que s'il est vrai que je fais en sorte dans ma vie à développer cette foi que j'ai l'autorité contre les démons, malheureusement, parfois, des frères et sœurs plus fragiles ont la foi, eux, qu'ils sont possédés. Et ça devient une véritable psychose. Ils croient qu'ils sont possédés. Ils le croient mordicus. Ils le croient, ils le confessent. Alors, ils vivent des phénomènes, un phénomène paradoxal, c'est vrai, mais il faut pouvoir les conseiller pour les rassurer et discerner s'il s'agit simplement d'un état psychologique fragile, s'il s'agit d'une oppression, et vérifier si la personne est réellement convertie à Jésus-Christ, si elle s'est repentie, si elle s'est convertie, si elle marche vraiment avec le Seigneur. Il y a en effet des personnes fragiles psychologiquement et c'est pourquoi la cure d'âme permettra de mettre en lumière la nature de ces choses. Voilà, Pierre a été criblé par l'ennemi. On sait qu'il l'a renié par trois fois. Jamais Pierre n'a été possédé. Et quelques instants plus tard ou quelques jours plus tard, nous retrouvons cet homme qui avait vécu cette chute spirituelle, nous le retrouvons debout, en train de reproclamer l'Évangile le jour de la Pentecôte, un message eh bien, proclamant la repentance et proclamant la réconciliation avec Dieu. Voilà, j'aimerais qu'on prie et qu'on demande au Seigneur vraiment qu'il donne à l'Église de manifester cette entière autorité contre le pouvoir des ténèbres. Souvenons-nous que le Seigneur nous a dit que nous avons reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Alors si nous avons reçu une telle autorité, celle de Jésus, contre la puissance du scorpion, si nous avons reçu cette autorité du Seigneur Jésus, eh bien confessons que rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Nous avons une autorité entière contre toutes les hordes démoniaques, toutes ces puissances. Et puis nous n'avons pas besoin de savoir ce qu'elles sont en train de tramer dans l'invisible, puisque nous savons que dans notre cœur, Christ a tout pouvoir. Christ est vivant et rien ne peut nous nuire. Amen. Alors, j'encourage chacun véritablement à vivre une vie de pureté, une vie de purification. Nettoyez vos maisons, nettoyez vos vidéothèques, nettoyez vos librairies, vos bibliothèques, purifiez votre maison. Croyez que Jésus seul suffit. Coupez avec toute chose qui pourrait amener un compromis dans votre vie spirituelle. Soyez des serviteurs de Christ, marchez dans la lumière, marchez dans la sainteté, marchez dans l'humilité, marchez dans la vérité, marchez dans la lumière, comme le dit le Seigneur dans sa parole. Et puis, l'ennemi ne pourra pas vous atteindre. Parce que vous avez reçu cette merveilleuse autorité pour délivrer tous ceux qui sont sous cette emprise. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous la gardons dans notre cœur. Nous te bénissons pour le ministère du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous placer sous l'autorité puissante de Jésus-Christ et déclarer qu'en toi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous prenons l'engagement ce matin, Seigneur, de te glorifier, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, qui appartiennent à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.